Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Pour cette nouvelle émission d'Antiquissimo, nous retrouvons avec grand plaisir Claude Aziza. Bonjour Claude Aziza.
Bonjour.
Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé. Et le mois d'octobre semble propice à ça, pas seulement parce que c'est le mois de votre anniversaire, mais aussi parce que c'est l'anniversaire de celui dont nous allons faire la fête aujourd'hui, à savoir Anatole France. Il est mort le 12 octobre 1924. Il est grand temps de lui rendre hommage, d'autant que, d'une manière tout à fait imméritée, il semblerait qu'il soit un peu tombé dans les oubliettes. On ne l'étudie plus guère à l'école. Les collèges ont cessé, et les lycées, de prendre son nom, il me semble en tout cas. Et du coup, à Nîmes, il y a quand même une rue qui s'appelle la rue Anatole France, près de la Tour Magne, je crois. Et pourtant, donc, disais-je, il mériterait grandement d'Antiquissimo que nous lui rendions cet hommage que nous avons décidé de lui rendre pour trois raisons qu'on va énoncer rapidement. La première de ces raisons, c'est donc l'anniversaire, ça je viens de le dire. La deuxième, c'est que d'une certaine manière, vous allez nous le dire, Claude Aziza, il est lié à Nîmes. De quelle façon ?
Oh, d'une façon tout à fait simple. Il a pris comme secrétaire en 1904. Alors, il ne faut pas oublier de dire qu'il est né en 1844.
Oui.
Donc en 1904.
Oui, c'est un homme du 19e hein, oui, quand même. Hein, oui.
C'est, il a pris comme un Nîmois qui s'appelle Jean-Jacques Brousson.
Alors peut-être on s'est interrogé, mais sans avoir la réponse, est-il lié à Claude Brousson, dont la rue tout près de la radio Alliance Plus porte le nom, Claude Brousson, qui était un avocat ministre du club protestant. Donc peut-être la même famille, mais aucune certitude là-dessus. En tout cas, lui, il est bien né à Nîmes, où il a fait toutes ses études, puis il est monté à Paris.
Voilà, donc c'est un journaliste, et Anatole France a besoin d'un secrétaire, mais ça ne va pas durer longtemps pour une raison très simple ou très compliquée.
Enfin, ils sont quand même 5 ans, c'est quand même pas mal.
Oui. En 1909, Anatole France l'emmène avec d'autres hein, dans un voyage en Amérique du Sud. Il a été invité par trois pays, l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay, et il se trouve que...
Il va y avoir une brouille entre les deux.
Une brouille parce que le départ a lieu le 30 avril, le retour sera le 28 août 1909, mais le 30 juin, il chasse Brousson. Alors, plusieurs hypothèses. À l'époque, on va faire un peu de people, si vous voulez. À l'époque, Anatole France a une liaison passionnée.
Et clandestine ?
Non, pas du tout.
Ah bon ?
Une liaison passionnée avec Madame de Caillavé.
Ah oui, non, je pensais
à... Il s'installe d'ailleurs chez monsieur et madame de Caillavé,
c'est l'ami
de la famille. Non, mais tout le monde est au courant de tout, on est dans une bonne société. Et il se trouve que pendant la traversée qui est longue, il a eu une liaison avec une actrice.
Voilà, c'est la gauche, oui.
Peut-être que Brousson a eu la langue si bien pendue que madame de Caillavé en tombe malade et que Anatole France... va être obligé, quand il rentrera, de lui faire ses excuses, mais elle va mourir d'ailleurs en 1910, pas forcément à la suite.
Donc pendant la traversée, il licencie ce secrétaire qui était en même temps une sorte de confident.
Ça, j'en sais rien.
En tout cas, il a écrit un livre.
Voilà. Il a écrit un livre à la mort d'Anatole France, qui semblait, Anatole France en pantoufle, donc qui semble-t-il...
Il lui a rapporté beaucoup d'argent.
Il lui a apporté beaucoup d'argent, puisque ça lui a permis de s'installer à Uzès.
Oui, donc, il a acheté l'hôtel Amoureux à Uzès.
Voilà, exit Monsieur Brousson.
Mais enfin bon, c'est bien quand même de parler de
Absolument.
Quelques notabilités nîmoises qui réussirent, parce qu'après la mort d'Anatole France, il l'a écrit dans beaucoup de journaux, et même si aujourd'hui on l'a complètement oublié, donc d'une certaine manière, nous l'avons ressuscité aujourd'hui, eh bien il a publié énormément. Et donc ce livre, Anatole France en pantoufles, paru 2 éditions en 24 et en 29, a même été traduit en anglais.
D'ailleurs, il est mort il y a finalement quelques années seulement, puisqu'il est mort en 1958.
Oui, ça paraît étonnant, parce qu'une longévité incroyable.
Non, il est né en 78, il est mort en 58.
Voilà. Oui, c'est vrai, c'est parce qu'il est à cheval sur 2 siècles que ça me fait cet effet-là. Alors, on en vient à la troisième et dernière et plus importante raison qui motive Quantiquissimo, demande à Claude Aziza de rendre cet hommage appuyé à Anatole France. Et bien, c'est que le dit Anatole France est passionné, connaisseur d'antiquité. Il va énormément publier, puisque vous m'avez dit qu'à peu près une 15aine d'ouvrages sont liés à l'Antiquité. Il n'est pas question dans cette émission de tous les répertorier, bien entendu. Et on compte sur vous, Claude Aziza, pour nous en donner quand même un échantillonnage. Donc, vous disiez qu'il avait couvert tout, théâtre, roman, nouvelle. On va essayer de balayer tout ça.
Alors, il faut d'abord... savoir que Anatole France, qui est né en 1844, est le fils d'un soldat qui est devenu libraire et qui a une librairie quai Malaquais. Donc Anatole France a grandi au milieu des livres.
Bon.
C'est pas un foudre de guerre, si j'ose dire, ni au collège ni au lycée.
Oh, mais il a quand même appris beaucoup de choses.
Oui, mais enfin, c'est un collégien un peu lymphatique, dont tout le monde déplore le dilettantisme, et ensuite il finira sa scolarité à un prestigieux Stanislas, puisque
à Paris, là,
à Paris,
nous parlons
Paris,
pas de Nîmes.
Il est à Paris.
D'accord.
Alors on peut quand même dire, et j'ai sélectionné un passage où il explique justement, et ça concerne l'Antiquité, c'est d'ailleurs assez amusant. Et d'une certaine façon, on va songer au mot de Montaigne. Vous savez ce que disait Montaigne ? Montaigne disait, quand je suis sorti du collège, je savais moins de latin que lorsque j'y suis rentré.
Mais ben ça pourrait, oui, peut-être, hélas, être le cas aujourd'hui.
Voilà, un peu dans La vie en fleurs, qui est en fait un recueil autobiographique.
Voilà. Donc ça, ce sont des nouvelles, hein ?
La vie en fleurs, c'est une biographie, c'est un recueil de...
Mais c'est une autobiographie.
Ça ne concerne pas du tout l'Antiquité. Hein.
Oui, oui.
Donc voilà, un jour dans ma chambre, je lisais Virgile.
Pas mal.
Je l'avais aimé dès le collège, mais depuis que les professeurs ne me l'expliquaient plus, j'en avais une meilleure intelligence et rien ne m'en gâtait plus la beauté. Lisais la 6e églogue avec enchantement. Ma laide petite chambre s'était effacée. J'étais dans la grotte où Silène endormie laissait tomber sa couronne auprès du jeune Chromis, du jeune Nasir et d'Aiglé, la plus belle des naïades. J'écoutais, etc. Donc, voilà.
C'est assez Alors, bel amusant. Hommage à Virgile, mais pas trop à l'école.
Mais pas trop à l'école, sauf que, et on va aller, si vous voulez... Puisqu'on parle de Montaigne,
oui,
faire cette émission à Sceaux et Gambade.
Exactement.
Montaigne, on va justement aller en 1897. Pourquoi ? Parce qu'en 1897, il publie le premier volume d'une fresque extraordinaire qui s'appelle Histoire contemporaine. Ça va durer 2 ans, 97-99, qui se passe dans une petite ville de province dont on ne connaîtra jamais une préfecture d'ailleurs, une sous-préfecture, on ne connaîtra jamais le nom, mais le héros, un des héros justement, qui promène sur ce monde assez terrifiant d'ailleurs, décrit par le monde de la province si vous voulez, et qui s'appelle Monsieur Lucien Bergeret, qui est maître de conférence de latin, d'ailleurs il finira à la Sorbonne à la fin du volume, et qui est en train d'écrire un livre sur Vergilius Nauticus, c'est-à-dire tous les termes de la navigation chez Virgile.
D'accord.
Je précise.
Donc tout ça, c'est de la fiction, hein ?
Non, mais je précise que ce livre a existé dans la réalité.
Oui.
En 1823, il a été édité, mais ce n'est pas une telle fiction, parce que le prototype de M. Bergeret est un ami d'enfance d'Anatole France, qui s'appelait Frédéric Plessis, et qui a été professeur de latin aux universités à Poitiers, à la fac de Poitiers, à Caen, à Bordeaux, à Lyon, et qui a fini à Paris, à la Sorbonne. Donc, c'est un point de départ, si vous voulez, et c'est ce monsieur Bergeret, qui est un héros, passe son temps, justement, à parler du latin, il explique à ses étudiants qui s'en fichent complètement les beautés de la langue latine, etc. Donc, c'est quand même, c'est le héros récurrent, hein, c'est le plus grand personnage.
Et ça semble un petit peu donc collé avec sa propre enfance et cette manière qu'il avait de découvrir tout seul quoi, voilà. les anciens.
Alors, les anciens. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il va gagner sa vie, ça va être assez difficile. Finalement, il rentrera chez l'éditeur Lemaire, qui éditera une partie de ses œuvres. Le maire, entre parenthèses, a beaucoup édité pratiquement tout Alexandre Dumas. Et il sera chargé, justement, de faire des éditions de Racine. Et des auteurs classiques, Racine, par exemple, pour qui il a une admiration sans limite. Il est passionné par Racine. Et alors, on va comprendre pourquoi, parce qu'il y a une anecdote.
Lequel Racine connaît quelques petites choses concernant le monde antique.
Oui. Sans doute. Mais surtout, il y a peut-être une anecdote, point de départ, qui est une anecdote délicieuse, mais je n'ai pas le temps de... Je vous la résume, si vous voulez. C'est que, au collège, on lui a expliqué que le collège donne les livres scolaires et que, donc, il aura parmi les livres deux pièces de théâtre, l'une qui s'appelle Esther, l'autre Athalie.
Donc ce sont des prix quelque part qu'on lui donne.
Non, pour faire le
Livre
gratuit,
d'accord.
Pour faire l'année en quelque sorte. Le système des livres gratuits existe déjà.
Hein. Ah bon, ça alors j'ignorais complètement.
Alors il rentre chez lui, il a une mère un peu, un peu originale et tout. Il leur dit il est tellement pressé qu'il me dit je ne peux pas les avoir tout de suite parce qu'il faut attendre. Puis il dit, mais je veux connaître ces dames, Esther, Athalie, c'est des héroïnes. Hein. Alors sa mère lui dit, et son père lui dit, mais non, c'est des tragédies de Racine qui ont été faites dans les circonstances suivantes. Il ne veut pas le croire. Et il explique qu'il s'endort, n'est-ce pas, il se voit déjà dans les bras d'Esther et d'Athalie, donc il fantasme, si vous voulez, sur ces héroïnes. Voilà. Ça, c'est déjà pour connaître, si vous voulez, l'ambiance.
Oui, son parcours, sa formation.
Son parcours. Alors, avant même, dans cette période, c'est-à-dire la période, il va écrire en 1867 une nouvelle qui s'appellera « La légende de Sainte Thaïs ». Cette nouvelle, on va aller un petit peu plus vite, en 1890, devient un roman qui est l'histoire de cette Sainte Thaïs, mais surtout, roman qui a beaucoup de succès, ce succès devient quasiment universel parce qu'en 1894, Massenet en fait un opéra.
Eh bien, il est temps de s'arrêter pour faire une petite pause musicale, justement. Antiquissimo, Radio Alliance Plus, Hommage à Anatole France, hommage appuyé pour son anniversaire du 12 octobre 1924, enfin anniversaire de sa mort. Donc pour cette commémoration, on a commencé avec Claude Aziza, qui est mon invité aujourd'hui. On a commencé à égrener les étapes de sa vie, on s'est plutôt intéressé à sa formation. Et le voilà maintenant, je dirais, investi comme écrivain.
Voilà. Alors il fait partie... plus ou moins d'ailleurs, du groupe du Parnasse.
Oui.
D'ailleurs, à un moment donné, il se fâchera avec le comte de Lille et ils ont failli, qui le provoque, ils ont failli
se battre en duel.
Ça n'a pas lieu. Mais il écrit justement une pièce de théâtre qui reste le chef-d'œuvre dramatique du groupe du Parnasse qui s'appelle Les Noces Corinthiennes. Alors, cette pièce de théâtre, elle est en 1876, il faudra attendre 1918 pour qu'elle soit jouée à la Comédie Française, mais elle sera jouée un petit peu avant, j'ai pas le détail. Alors qu'est-ce que c'est que les noces corinthiennes? Eh bien, c'est les divinités païennes face au christianisme triomphant et qui annonce leur propre déclin. Alors je cite juste comme ça, Artémis par exemple, la Vierge solitaire et tendre, croîtra sous un dieu menaçant, elle s'étonnera d'entendre qu'elle fût impure en naissant. Aphrodite, les femmes craindront d'être belles, tous leurs amours seront amers, et les fils des races nouvelles iront les fuir dans les déserts. C'est évidemment le dialogue qui sera tout au long d'ailleurs de la, hein, entre l'Antiquité et le christianisme. Et n'oublions pas que Anatole France reste partout un sceptique. Alors, je passe sur 77, c'est son mariage. En 80, il a une fille, une seule fille qui s'appelle Suzanne, qui aura un destin assez extraordinaire, parce que, à la suite de plusieurs d'un mariage et d'un divorce, elle va épouser en 1908 le petit-fils de Renan, Michel Psicari. Elle mourra en 18, Suzanne, et Anatole France demande et obtiendra la garde de son petit-fils, Lucien Psicari.
Ah oui.
C'est un personnage très important, Psicari. Voilà. Et donc, là, on va aller un petit peu plus vite. En 89, il y a un recueil de 7 contes qui s'appelle Balthazar et qui est un dialogue entre le roi mage, hein, les 3 rois mages, et la reine de Saba. En 1899, Clio, qui est un recueil de 5 contes, et là, on a des contes qui sont extraordinaires, il y en a 2 qui sont très célèbres. L'un s'appelle Le chanteur de Kimé, qui raconte la mort d'Homère, Kimé, K-Y-M-E. Et le second, qui s'appelle Comme la trébate, qui raconte l'histoire d'un... que César... d'un auxiliaire de César qui s'est révolté contre César, et la trébate fait partie de l'expédition ratée de César en Bretagne, et donc on va retrouver son portrait dans la guerre des Gaules, au livre 4, au livre 5, au livre 8.
Alors c'est l'occasion pour moi, puisque cet ouvrage est paru aux éditions de Passy, de donner un petit coup de chapeau à cette maison d'édition qui s'intéresse à l'antique, dans une collection justement qui s'appelle Parfums d'antique, et aussi à Chantal Chemla, qui vient de disparaître et qui présente cette œuvre dans cette collection. Alors, donc, ça c'est une nouvelle.
Voilà. Ça c'est une nouvelle. Alors entre-temps, ben, sa vie a changé. Il a une liaison passionnée avec Madame Caillavet, qui va mourir en 88, qui va mourir en 1910. Et d'ailleurs, il va conserver jusqu'à la fin de sa vie une affection, une compagnie de la petite fille de Madame Caillavet, qui va devenir tout simplement Madame André Mauroy.
Ah d'accord,
donc, on est
dans
une diversité. Oui. Alors... En 92, il y a encore un recueil de nouvelles, sur lesquelles il y en a 4 qui concernent l'Antiquité. Sur les 4, il y en a 3 qui se passent au IVe siècle, mais surtout, je vais insister, c'est peut-être la nouvelle la plus importante de, même de l'univers antique d'Anatole France. Ça s'appelle Le procurateur de Judée.
Ah oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce procurateur de Judée? C'est le sceptique, on voit très bien le sceptique qui parle. Donc, le narrateur, qui est un, voilà, qui est un romain de la vieille école, qui s'est un peu retiré, va rencontrer un ancien ami dont il avait oublié qu'il était devenu retraité, et c'est Ponce Pilate. Et alors ils vont discuter, et Ponce Pilate va discuter de gouvernement de Judée, et on va parler de la vie politique, et à un moment donné, le narrateur lui dit, enfin, si tu dis pas, il y a eu, parce qu'il parle d'une religion nouvelle, il dit, mais enfin, ça ne te dit rien, cette religion, elle provient d'un dénommé Jésus, que tu as fait crucifier. Et alors, c'est ça qui est extraordinaire, je vais vous lire quand même la dernière phrase, parce qu'elle est extraordinaire, et ça c'est formidable. Pontius Pilatus fronça les sourcils et porta la main à son front comme quelqu'un qui cherche dans sa mémoire. Puis, après quelques instants de silence, « Jésus » murmura-t-il. « Jésus le Nazaréen, je ne me rappelle pas.
Mmh. »
C'est assez extraordinaire. Voilà. Et donc, le temps passe, bien sûr, et en 1905...
Donc cette nouvelle, le procurateur de Judée, on peut la trouver sans problème.
Dans la requête qui s'appelle Clio.
D'accord.
Oui, on peut trouver ça, tout ça doit se trouver en livre de poche. En 1905, oui, on avance un peu, un roman très important qui s'appelle « Sur la pierre blanche » met en présence à Corinthe Galion, le frère de Sénèque, et Paul de Tarse,
oui.
Bien sûr, qui est saint Paul.
L'apôtre.
Et ils vont se... L'apôtre, bien sûr. Donc, ils vont se rencontrer à Corinthe. Paul a des ennuis avec les autorités, mais il a aussi des ennuis avec la communauté juive. Et donc, il y aura un dialogue assez philosophique. Alors, on pourrait penser que, finalement, l'histoire se terminerait en 1913 par un essai qui s'appelle « Le génie latin », hein, qui est bien. Mais, en fait, c'est pas tout à fait ça. Pourquoi ? Parce qu'en 1908... il y a une œuvre totalement inconnue, que j'ai d'ailleurs éditée, qui s'appelle « L'île des pingouins ». Et cette île des pingouins, c'est la Nouvelle Atlantide. Donc c'est à la fois 1984 d'Orwell et en même temps la Nouvelle Atlantide, parce que tout est calibré, c'est l'Atlantide, mais l'Atlantide d'une façon très noircie, si vous voulez. Et on penserait que tout cela s'arrête là, mais sinon que... En 1914, pratiquement, parmi les dernières œuvres d'Anatole France, nous avons un livre tout à fait que j'ai édité aussi, qui s'appelle « La révolte des anges ». Et ça, c'est un livre assez faramineux, car tous les anges, sous la conduite de Satan, sont partis sur terre pour se révolter contre un dieu qui est Jéhovah. Et donc, chacun de ces anges va avoir un être humain auquel il s'attache, et là... on va avoir une espèce de trio entre une espèce de sceptique un peu libertin qui s'appelle Maurice et son ange qui est à côté de lui. Mais il se trouve que là, il y aura un ange masculin, un ange féminin. Et tout ça va se terminer par une espèce de, si j'ose dire, de trio érotique et sexuel. Parce qu'il faut dire aussi que Anatole France a eu énormément de liaisons. C'est un homme à femme. Et donc, dans la révolte des anges a choqué énormément, bien sûr. Donc, mais beaucoup de ces choses ont choqué, pas au point quand même qu'il ne soit pas à l'Académie française, et surtout qu'en 1921, il a le prix Nobel de littérature.
Oui, ça, on l'a complètement oublié, mais c'est vraiment important.
Reconnu par la communauté internationale. Que d'ailleurs, chez lui... Et non seulement il sera Dreyfusard, hein, et il va prendre position contre l'État lorsque Zola est radié de la Légion d'honneur, il ne portera plus la sienne, parce qu'il l'a eu, et il va pendant 16 ans, il quittera l'Académie française en jugeant que ses membres n'ont pas une bonne
n'ont
position.
N'ont pas été courageux.
Mais l'Académie française va hélas, lui, rendre l'appareil, puisque le successeur d'Anatole France sera Paul Valéry, et Paul Valéry réussira l'exploit de parler du poète qu'il remplace et du romancier qu'il remplace
sans jamais
prononcer son nom. Il faut dire aussi qu'en 1924...
Ce n'était pas quelqu'un de très sympathique, hein, Paul Valéry.
Je ne sais pas. En 1924, les surréalistes mettront les derniers clous sur le cercueil d'Anatole France parce qu'ils n'ont jamais aimé ce qui représentait la qualité française, un peu comme la nouvelle vague française a massacré bêtement le cinéma français habituel. Si vous voulez. Donc, Anatole France est rentré à ce moment-là dans un long
sorte de purgatoire.
Un long purgatoire, parce que quand même depuis 1924. Alors peut-être il y a aussi peut-être quelque chose, c'est que on a tiré du livre de mon ami pendant des années que j'ai suivi comme collégien et que j'ai ensuite fait faire comme professeur.
Les dictées
sans arrêt. Et alors, donc, Anatole France a toujours été associé peut-être à des dictées, alors que finalement, c'est un immense écrivain. C'est sans doute un des plus grands prosateurs de la langue française. Et la façon dont il a parlé de l'Antiquité, il faudrait voir tout ça en détail, bien entendu, nous n'avons malheureusement pas le temps de le faire, la façon dont il a parlé de l'Antiquité, sa vie d'ailleurs, liée à son siècle, hein, c'est quand même 44-24, vous voyez qu'il a été au cœur de toutes les affaires politiques et poétiques, et si j'ose dire, et littéraires de son temps. Donc c'est bien un homme de son temps, mais c'est un homme qui transcende tout ça, et je pense qu'il faudrait au moins lire les nouvelles qui sont les plus accessibles, hein, c'est-à-dire Le chanteur de Quimet, Comme la trébate, Le procurateur de Judée, peut-être Sur la pierre blanche, qui est un peu compliqué.
Le petit chose.
Pardon.
Il ne faut pas lire non plus Le petit chose, non.
Le petit chose, c'est Alphonse.
Ah oui, Alphonse Daudet, décidément.
Non, on peut lire, non, le livre de mon ami.
Voilà, le livre de mon ami.
Oui, bien sûr, le livre de mon ami. Et surtout, l'histoire contemporaine.
Bon, et bien c'est dit, on va relire tout ça. Merci Claude Aziza.
Merci à vous.
Au revoir.